midi.
On aime ce que vous faites.
All right.
Midi 51, on se divertit un peu avec l'excellent Mathieu Thomassin, chroniqueur automobile. Salut mon Matt.
Hey, bon midi à vous et bon midi à tous les auditeurs et bon midi Pascal.
Tu nous as manqué.
Bon midi,
hey.
Matt.
Tu nous as manqué la semaine dernière.
Ouais, je le sais, désolé, il y avait comme un 3 heures de décalage dans l'essai boutique qu'on faisait. Et je te cacherai pas qu'on était comme un petit peu dans une section, la Colombie-Britannique, là, donc une section qui est comme un peu du côté des antennes des États-Unis. Cellulaire pogne pas, donc c'était compliqué. Fait que désolé, je préfère vous canceller tant qu'à vous faire souffrir avec une qualité audio médiocre.
Mais t'as manqué quelque chose d'exceptionnel. Je suis enfin rentré dans une secte, Mathieu.
Ah oui?
Depuis le jour où je veux être dans une secte, j'ai réussi enfin cette semaine. Je suis passé chez Bernie Rotto et j'ai essayé une Tesla, mon ami.
Oh, OK. Fais attention, là. Effectivement, tu rentres dans ce que les gens adorent et ce qui est la nouvelle image. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune au secondaire, c'est arrivé avec le petit Honda Civic SI à gaz avec un P-Flow, la ligne d'exhaust, puis t'étais le king du parking.
Ça prenait un petit aileron, hein?
Ouais, mais à cette heure, si t'arrives aujourd'hui dans le parking de l'université avec un 4x4 Z71 puis les pneus qui sortent des ailes de 4 pouces, t'es comme Satan. Mais si t'arrives avec une Tesla, tu es l'élu, mon gars. Là, ouais. Ça, c'est sûr.
Puis, tu sais, je l'ai mis je l'ai mis sur les réseaux sociaux, puis il y a des gens qui m'ont écrit « Yann, qu'est-ce que tu fais à essayer un modèle électrique? » Ben, tu sais, pour savoir c'est quoi ce modèle-là, il faut toujours bien que je l'essaye.
Ben, on ne peut pas essayer ça, je comprends
mais
pas.
Mais il y en a qui sont très fermés à ça. Puis, savez-vous quoi, c'est bien correct, mais donnez juste pas votre opinion sur ce véhicule-là. Moi, je ne fais pas partie de la gang que « Ah, toutes les opinions se valent. » Moi, quand je demande un avis médical, je demande pas à Thomas l'avis médical qui pense sur moi. Je vais demander ça à un médecin.
Un professionnel.
L'avis du médecin va être pas mal plus important. Comme quelqu'un qui l'a déjà essayé va être capable de dire voici ce que j'ai aimé, voici ce que j'ai pas aimé. Si après l'avoir essayé, tu me dis j'ai pas aimé ça, ton avis est correct, là. Tu comprends?
Ouais, ils sautent dans l'arène, sois pas
tu
spectateur.
Tu l'as essayé. Mais là, les gens m'écrivaient, me disaient j'en reviens pas. Je me dis t'en as-tu déjà essayé une? Non, je veux rien savoir de ça, c'est électrique. Écoute, moi, il faut juste que je l'essaye pour savoir de quoi je parle.
Avoir
je suis
une
désolé.
Ouais, basé sur une expérience.
Ben oui.
Ben, tu es en train de résumer la job de journaliste automobile. On va se le dire. Il y a quelque chose qui crée des conflits chaque fois qu'on parle d'automobile. Bon, les 4x4, lequel est le meilleur? Ford, Ram, GM. Dépose ça quelque part en prêchant plus pour un camion et la guerre des camions va être prise. Mais la deuxième guerre qui s'est déclarée au travers le temps, c'est l'électrique versus les véhicules à essence. Puis quand je dis guerre, c'est guerre d'Internet. Jamais j'ai vu de discours aussi tranché, mais en même temps, de trucs un peu déconnectés des fois de certaines personnes qui vont aller avec des commentaires un peu de jugement sans même avoir essayé. Wow.
Exact. Moi, ça ne me dérange pas. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas? Moi, c'est bien correct. Je veux entendre ton opinion là-dessus. Tu ne l'as jamais essayé. Ben, attends de l'essayer avant de passer un commentaire, tu sais, plutôt que d'être fermé. Puis, ce qui m'a grandement impressionné quand je suis allé voir ce modèle-là puis que je l'essaye, c'est son accessibilité maintenant. Quand c'est sorti, j'étais plus ou moins certain du prix. Je trouvais que c'était peut-être un prix qui était trop élevé. Là, un Tesla Model 3, comme j'essaye cette semaine, c'est autour de 32 000 $ là, puis c'est un excellent véhicule. Le seul problème, c'est faites pas comme moi. Quand vous partez du concessionnaire avec la carte, moi, c'est une petite carte qu'ils m'ont donnée pour la Tesla, dites pas « Oui, oui, je sais comment ça marche. » Parce que quand tu arrives à côté du char, il n'y a pas de serrure.
Non, puis ça peut être long avant que tu comprennes.
Oui, il n'y a pas de serrure. Puis quand tu rentres dans la voiture, faut que tu mettes ta carte à un endroit bien spécifique pour que le véhicule détecte que c'est toi. Puis quand tu embrayes sur le D, mettons, sur le drive pour avancer, t'entends absolument rien. Tout est silencieux. Ouais. Fait que tu sais pas si ton char est parti ou s'il est pas parti. Puis là, tu pèses sur le gaz, mon homme.
Mais t'as pas demandé d'aide.
Zéro à une seconde, t'as déjà 20 km/h de bris.
Ouais, ouais, ouais. Mais t'as pas demandé d'aide. Fait que t'es le king, c'est ça, Yannick, que t'es en train de dire?
Écoute, tu sais, j'étais dans le véhicule, je vais te faire rentrer un peu dans ma vie, Tom, là. Mais je suis dans le véhicule Tesla. Puis je me dis, astifie que t'es cave. T'aurais pu au moins dire, hey, tu peux-tu me montrer un peu à la base du véhicule, tu sais? Fait que pendant 2-3 minutes, j'ai gossé pour finalement finir comme quand j'ai bâti ma maison, là. J'ai été sur YouTube puis j'ai regardé comment partir un Tesla Model 3.
mais sache, Marceau, t'es pas le seul. L'ensemble des véhicules électrifiés font un peu cette réactivité-là au comportement. Puis il y en a même que quand ça vient le temps de fermer le véhicule puis de dire OK, c'est beau, je m'en vais de celui-ci, ben, les gens cherchent le bouton pour fermer le véhicule.
Ben oui, ça m'est arrivé
aussi. Il
n'y
en a pas. Tu fais juste sortir et fermer la porte et barrer le véhicule et c'est parti.
C'est fou, hein?
C'est ça, exactement. Et ça, c'est un des premiers concepts de base en automobile qu'on est tellement habitué, routinier de faire constamment, d'ouvrir, d'appuyer sur le bouton démarrage, de mettre en embrayage et d'entendre comme le véhicule de réagir, non seulement pour te dire qu'il est prêt, mais maintenant de remplacer tout ça par un petit voyant vert qui nous dit que le véhicule est prêt à rouler dans un silence qui est pur. Et on le sait, là, tu sais, du côté de Tesla, c'est pas les véhicules qui avaient une qualité de conception extraordinaire. On va donner à Tesla ce qui mérite à Tesla. Ils ont créé un vent de changement dans l'industrie automobile qui a invité les gros, gros manufacturiers à se pousser dans le derrière et à tomber dans une ère nouvelle électrifiée et à offrir le choix. En passant, qu'est-ce qui est bien de Tesla? Qu'est-ce qui est bien aussi d'un véhicule à essence? Bien, devinez quoi? C'est que vous avez le choix. Si l'électrique convient à vos déplacements, allez-y, essayez-le. Si vous faites du déplacement urbain puis votre véhicule dort 80 % du temps dans votre cour, puis que vous faites une fois un voyage à Montréal ou encore à l'autre bout du monde en vacances par année, puis que vous pensez que l'électrique ne vous conviendrait pas malgré la présence de plein de superchargers, bien, devinez quoi, louez-vous un véhicule pour cette période-là, puis vous allez encore rentrer dans votre argent par rapport aux dépenses d'essence. C'est sûr que d'un véhicule électrique, il va être beaucoup plus incitatif quand le prix de l'essence va être très haut. Les Québécois, on est sensibles à ça. Au Québec, on a eu comme un peu un abaissement de ces prix-là dernièrement, en passant au BC, 1,98, 1,99 encore. Donc, les extrémités du Canada S-Ouest, c'est très cher. Mais l'électrification aussi va peut-être passer dans la moulinette un jour, parce qu'on l'a vu, hein, l'immatriculation à Montréal, et c'est là qu'ils vont aller chercher maintenant l'argent sur les véhicules et pas nécessairement juste avec l'essence au niveau des taxes.
Tu sais, je regardais les paiements, Matt, là, c'est 230$. Pour ce char-là, le Tesla Model 3 chez Bernier Auto, il est à 230$ aux deux semaines. Ça, c'est 460$. Puis ça me coûte, à moi, avec mon véhicule à essence, ça me coûte 125-150$ par semaine. Fait que je rentre dans mon argent juste avec l'essence que je mets pas dedans.
Ça serait très profitable.
Ben vraiment. Puis c'est rare que je vais à Montréal. Quand je vais à Montréal, tu sais, je peux, comme Mathieu dit, je pourrais me louer un véhicule sans aucun problème ou monter en train, là, puis rendu là-bas, t'es avec du Uber sans problème. Mm-hmm. Mais l'hiver, tu sais, l'hiver avec les gars puis tout, je suis pas sûr que ce soit super pratique. Mais dans mon quotidien, ce type de véhicule-là pourrait bien faire. L'accélération, ça me marque à chaque fois. Tu sais, Bernier Auto, c'est juste à côté de l'autoroute, là. La 20, c'est juste à côté de la 20, puis tu fais du 0-100 en quoi? 3-4 secondes, là, sans exagérer?
Bien, c'est très rapide comme véhicule. Faut pas oublier aussi que Tesla, ça l'a fait sa renommée. Hein? L'électrique, comparativement à un moteur essence régulier ou encore bon, même une petite mécanique turbo-compressée, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre la réactivité pour avoir la pleine puissance. Un moteur électrique, c'est on ou c'est off. Un modèle 3, mettons, comme tu as là, va être capable de faire un 0-100 sous les 5 secondes et voire même le modèle bon, qu'on appelle un peu plus performance. Un petit véhicule comme ça peut rouler dans les alentours de 2,60 km/h et faire un 0-100 km/h en 0-100. Excuse-moi, un 0-100 km/h en 3,1 secondes. Donc, c'est fou raide, quand même, il y a une réactivité, mais il faut quand même être conscient au volant qu'on a beaucoup de puissance avec un véhicule électrique. Et Tesla est encore un des leaders de l'autonomie. Les Coréens suivent de très près cependant, mais on est facilement capable de faire avec les véhicules au-dessus de 430 km environ, là, voire même jusqu'à, bon, dépendant si on a un modèle un peu plus à longue portée, là, on parle d'environ 540-550 km là, selon ce qui est annoncé. C'est un modèle qui ne nous crée pas d'anxiété de conduite avec un véhicule électrifié, et que peu importe où est-ce qu'il y a des chargeurs rapides, ne sont pas lents comme certains véhicules de la compétition à charger. On a une technologie qui était intéressante. La seule chose des fois qui m'agace un petit peu, c'est l'assemblage, mais il fallait protéger le véhicule aussi au travers le temps. Mais celle-là, chez Bernier, présentement, là, je regarde les images, je suis en bonne condition au travers tout ça. Là.
Ah, puis en plus, quand je l'essaye, je le laisse dans une propreté immaculée, c'est ce qu'on m'a dit.
Ah oui, ça, c'est-tu de l'ironie ou
ben, c'est la seule
parce que t'essaies chacun des bancs en bonne compagnie?
C'est la seule qualité qu'ils m'ont donnée, mais tu sais que je m'essaye dans, je sais pas, je pense que je vais te prendre une photo, Matt, là, mais il y a une super de belle Corvette qui est dans l'entrée chez Bernier Auto. Puis à chaque fois que je rentre chez Bernier Auto, puis je sais que Steph n'est pas dans place, je dis tout le temps, Steph m'a dit de venir chercher la Corve. Puis là, il a comme raccroché, puis j'ai comme compris Corve. Y a-tu un char qui correspondrait à une Corve? Puis il me laisse jamais partir avec ça. Mais on donne une Tesla, puis tu sais quoi, je suis bien content pareil.
Ouais, puis il n'y a pas juste un Corvette, je pense, chez Bernier, il y en a deux présentement.
Dépêchez-vous.
Surtout un deux. Ouais, surtout un 2022, là, le cœur me fend à chaque fois que je regarde un petit gris comme ça aussi.
Mais
là,
les gars, vous connaissez le dicton?
Quoi?
Ah! Oh, c'est en train de me dire que j'arriverais à l'université puis je parquerais ça puis que ça ne marcherait pas dans le stationnement.
Ça dépend pour ceux qui le connaissent ou pas.
Hey Matt, j'ai des questions d'auditeurs pour toi, mon ami.
Vas-y, vas-y.
Est-ce qu'un concessionnaire qui affiche un véhicule inspecté par ce même concessionnaire effectue une inspection de confiance? Est-ce qu'il est obligé d'effectuer une inspection de confiance pour son futur client?
Je vais être obligé de te dire que c'est mieux d'aller chercher un avis autre parce que trop souvent, on nous dit que le véhicule est inspecté, on présente une feuille, puis c'est drôle, on regarde des photos d'Internet, on dirait qu'ils n'ont même pas nettoyé le véhicule, même pas dégagé. Tu sais, on sort de l'hiver, là, ça paraît pas, mais ça fait quelques semaines. Et on voyait des véhicules qui avaient quasiment deux pieds de neige dessus. On ne sait pas combien de temps le véhicule, des fois, qu'il soit récent ou encore usagé, a resté dans le stationnement. Et il faut toujours penser à l'inspection. C'est pas le bon vieux coup de pied là, sur le pneu là, qu'on donne au véhicule. C'est vraiment avoir un examinateur professionnel qui va faire l'essai routier, examiner le moteur, suspension, frein, direction, système d'échappement et aussi mesurer l'épaisseur de la peinture pour être sûr que c'est celle d'origine ou savoir si la voiture a été repeinte après un accident. Car trop de fois, j'entends aussi, mais le Carfax était propre, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a même aujourd'hui, avec l'intégration de la technologie, l'ordinateur de bord qu'on doit consulter pour évaluer l'état réel aussi de la mécanique. Tu sais, les fameux check engine, là, n'importe quel cellulaire maintenant peut en effacer un, puis il peut rester effacé pour, disons, quelques temps que le véhicule roule, et soudainement, pataboum, mauvaise surprise, il allume, et on se ramasse avec des enjeux.
Mmh. OK, tu dis que mon cellulaire peut éteindre le check engine?
Ben, c'est parce qu'il y a des applications maintenant qui permettent, ça te prend un module, un bidule. Là. Okay. Il y en a beaucoup qui achètent ça sur Amazon ou autre.
Oui, mais des crossailleurs vont l'acheter. Là. S'ils veulent t'avoir, ils vont l'acheter, ce bidule-là.
Sûrement.
Ben, les concessions, encore les manufacturiers, ont des bidules encore plus avancés. Ils ont des ordinateurs encore plus de qualité qui permettent de parler avec une multitude de véhicules. Cependant, aujourd'hui, la technologie fait que pour analyser un check engine, tu vas sur Amazon, tu vas sur n'importe quel site de commande, tu peux acheter à très peu de frais un petit bidule qui te permet de savoir exactement ce que ton véhicule a. Fait que tu n'as pas besoin de payer ce genre de 120$-là pour faire sortir un code. Ça, c'est souvent la passe qu'on vous dit « Ah, mais là, c'est important de sortir le code. » Oui, mais c'est parce que ça prend 30 secondes. Si tu me charges 120$ pour ça, je te dirais que c'est ça, c'est pas très évident.
Écoute,
là.
Dans mes premiers chars que j'avais au cégep, là, je passais à quincaillerie, 2$, tape électrique, tu mets ça sur la lumière, ça disparaissait assez rapidement dans le char.
Fait que, tu sais, encore là, je vous le dis, il y a des concessions qui le font bien, mais malgré tout, la réputation que j'entends présentement, beaucoup dans le véhicule d'occasion, c'est qu'on veut aller vite, qu'on veut repasser vite les véhicules, que des fois, ça arrive de l'encan, qu'il y a des nic-nacs à faire. Et ne vous faites pas avoir, surtout pas aujourd'hui, au prix des véhicules usagés que moi, je trouve qui sont encore trop hauts. Je vois des vidanges incroyables sur Marketplace aussi, en particulier, c'est la même affaire. Faites toujours, toujours, toujours une inspection dans un centre recommandé. Vous avez une carte CE, vous avez peut-être un ami qui en a une, ou encore, vous prenez tout simplement un garage qui affiche cette bannière-là, ou encore un garage de confiance. Allez-y, parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, la mécanique qui brise coûte les yeux de la tête, et c'est pas pour rien qu'on veut être sûr que votre dépense d'occasion ne vous occasionnera pas de trouble pour un bon bout de temps.
Carl nous écrit par messagerie, par texto au 418-971-101. Il me dit, on appelle ça un OBD2.
Oui, les lecteurs, effectivement. Oui, okay. Mais dans le fond, tout ce qui est des ordinateurs, c'est un peu la procédure de communication. Et maintenant, on a des petits trucs, voire même Bluetooth, qu'on branche dans le port de l'ordinateur, le fameux port OBD2 dans le fond, et que celui-ci communique et t'affiche ce que tu veux sur le cellulaire. Donc, je vous le dis, en passant, il ne faut pas penser ces objets-là que c'est juste pour effacer les check engines. Si un check engine, c'est qu'une raison mécanique à celle-ci. On ne l'efface pas en priant le petit Jésus que ça ne reviendra pas. Parce que si vous ne fixez pas la mécanique de votre véhicule, vous pouvez vous ramasser avec plus de problématiques.
Oui. Combien ça peut coûter une inspection de véhicule quand ce n'est pas fait par le concessionnaire chez qui tu veux acheter le véhicule? Bien entendu, je ne sais pas, moi, Pascal, c'est une professionnelle du merveilleux monde de l'automobile, elle me facture. Ça peut coûter combien une inspection?
Écoute, ça, là, c'est sûr que ça peut varier. Dans le temps, on disait entre 100 et 200 piastres. Je vous dirais que c'est au taux horaire, sans doute, du mécanicien que vous allez faire confiance. Oops. Au départ, ça peut vous paraître cher. Si vous magasinez 5 véhicules, puis vous faites 5 inspections, je vous dirais de vraiment aller essayer les véhicules, essayer ces 5-là, regarder lequel vous plaît le plus, puis peut-être faire une sélection. Après ça, c'est vraiment égal-égal. Faire vraiment une sélection de ceux-là qui est en meilleure condition. S'il faut faire 2 inspections, faites-le. Vous n'allez pas regretter votre choix. Mais c'est sûr que ça peut passer aux alentours là, de 200 $ là, quand même. Sinon, il y a quand même certains garages qui vous offrent des fois des deals, je vois du 125, 95, ainsi de suite, ce qui est l'équivalent à environ une heure de travail là, pour le mécano. Mais assurez-vous d'avoir un garage recommandé.
OK. Autre question d'un auditeur. Est-ce qu'on peut me refuser d'évaluer mon véhicule avant de savoir exactement quel véhicule je veux acheter?
Oui, effectivement, c'est une question qui a ressorti dernièrement aussi. Écoute, je trouve ça un peu particulier qu'une concession ou encore un vendeur refuserait d'évaluer ton véhicule avant de savoir exactement lequel tu veux. Souvent, c'est une stratégie un peu d'argent. On veut comme évaluer vers quoi tu vas te diriger pour après, encore une fois, un peu jouer avec les prix. Je vais être franc avec vous si un vendeur vous dit « Ah ben là, je ne peux pas évaluer ton véhicule tant que je ne sais pas lequel tu veux », je pense que vous êtes dû pour changer de concession. Donc, c'est des genres de tactiques un peu commerciales et on veut éviter que vous ayez des jeux de prix où est-ce qu'on fausse un peu le prix de rachat, dépendamment de ce que tu veux acheter aussi. Il faut dire que l'important aussi, c'est toujours de checker le prix final qu'on vous vendrait le véhicule et si vous avez un échange, faites donc une négociation après avoir négocié le prix principal au bout et au coton du véhicule que vous vouliez acheter.
Ton essai de la semaine, Matt, de ton côté, c'est le Subaru Forester 2025. Quel beau véhicule!
Oui, mais il y a des gens, bon, du côté du public, ont trouvé que Subaru n'en a pas fait assez. On trouvait qu'on est trop tombé d'un côté classique sport utilitaire, voire même on voyait des ressemblances entre certains véhicules, bon, pour ne pas nommer Ford, Ford Escape, Ford Explorer, Ford Edge, et ainsi de suite. Surtout le bleu que j'ai pris en photo. Si jamais vous n'avez pas vu mes photos, ajoutez-moi sur Facebook, ça va me faire plaisir. Écoute, on dirait ça littéralement. Et c'est pas nécessairement un mauvais design au niveau du Forester parce qu'on a toujours été conservateur. Les propriétaires qui roulent déjà des vieux Forester vont se retrouver un peu dans leur élément. Est-ce qu'on aurait pu en faire plus? Peut-être un peu plus, oui, mais terminer quand même les lumières homard à l'arrière, la définition des phares à l'avant qui est beaucoup plus belle. On a sculpté un peu le tout pour qu'il paraisse plus large. Et attention, maintenant, on a des roues de 17 jusqu'à 19 pouces sur un Forester compact. Wow. Ne sortez pas en route avec des pneus et des roues de 19 pouces. Non, ça ne marche pas. Et vous allez vous ramasser avec des factures assez incroyables. La chose qu'on a manqué un peu, c'est un peu le couvert d'échappement à l'arrière. C'est comme si on aurait laissé l'impression qu'une version sportive pouvait être disponible, qu'on allait enlever ce couvert-là pour avoir une ligne d'échappement de performance. Mais bon, malgré que Subaru, le style n'est peut-être pas leur force, à l'intérieur, on a fait un travail de confort et de silence incroyable.
Mais c'est quoi, les gens le trouvent trop carré? Parce que moi, ce type de véhicule-là, ça fit parfaitement avec mes besoins. Tu sais, le haillon, il y a de la place en arrière comme pas possible.
Oui, mais tu sais, Subaru nous avait habitués avec des designs qui sortaient un peu de l'ordinaire, surtout dans les années 2000, où est-ce qu'en même temps, on traînait une réputation de rallye, de performance, de robustesse. Écoute, c'était la Outback, c'était même Paul Hogan, Crocodile Dundee qui donnait une ride à ça. Fait que tu sais, avait une image un peu différente. Il ne faut pas oublier aussi au travers le temps, WRX, STI, Travis Pastrana a été et est encore un de leurs ambassadeurs majeurs. et tu te retournes avec un Forester qui, avant, il y avait une version XT performante turbo dans laquelle tu mettais une ligne d'échappement. Puis écoute, tu allais faire vibrer des étudiants dans le coin du parking de l'université, ça c'est sûr. Mais tu avais un véhicule qui était agressif, beaucoup plus aussi dans des situations hivernales, puis qui allait chercher une essence qui nous faisait dire « Hey, Subaru, ça déménage ». Donc, on s'est assagi. Est-ce que c'est mauvais? Non, parce qu'il va se vendre quand même, surtout auprès des gens présentement qui adorent le Forester. Mais je pense que le challenge dans un segment très populaire, c'est un look conservateur, ça va être d'amener les gens à venir l'essayer derrière le volant, surtout qu'on conserve une mécanique très similaire avec un retrait de 2 HP, mais un gain de 2 livres de couple, mais avec une bande de puissance qui est beaucoup plus basse. Mais tu sais, comportement routier, quand même assez exemplaire à la Subaru, malgré un centre de gravité élevé. C'est ultra silencieux, ultra confort, et c'est un des véhicules de cette gamme-là qui est le plus compact. Fait que si tu veux partir en voyage, ou encore, jetez un coup d'œil au vétérinaire le prochain coup que vous allez là, ou encore là, chez des magasins pour animaux, puis regardez les véhicules d'encours. Vous allez voir que c'est du Subaru en tabarouette. Donc, tous ceux-là qui sont amateurs d'animaux, qui aiment amener leurs animaux à l'aventure ou encore camping ou autre, ou tous ceux-là qui tripent, surf, ainsi de suite, c'est souvent des véhicules vers lesquels ils vont se diriger. La puissance n'est pas époustouflante, Subaru doit oser, mais la visibilité, le confort, l'espace intérieur puis le côté chef de montagne, on l'a. Le prix a augmenté cependant et c'est là qu'il va falloir quand même bien s'installer avec la compétition.
Hey Matt, un sujet qui va faire plaisir à Pascal. Une étude affirme que les personnes qui aiment les pots d'échappement, donc les pipes bruyants, sont des gens qui sont psychotiques.
Pardon?
Ouais, effectivement.
Là, ça, c'était une personne psychotique qui a fait l'étude?
Il y a M. Police Bellefleur, ça arrive ça, qui va être content d'entendre ça.
Mais imagine la personne qui dit « Moi, je vais faire une étude sur... » Puis là, il sort tout ça.
C'est ça. Parce que d'habitude, on dit que c'est lui, le psychotique.
En fait, il y a peut-être différents niveaux à savoir c'est quoi bruyant. Hein? Parce que, soyons francs, quand tu arrives avec un véhicule V8 sportif, il est bruyant par défaut. Mais si c'est de tourner un Honda Civic dans une canne de bruit telle une trompette, c'est un peu particulier. Sans oublier tous les gars qui ont des camions habituellement d'origine et qui se ramassent avec 2 lignes d'échappement qui pointent vers le ciel avec des clapets, avec absolument aucune modification automobile. Bon, écoute, il y a un professeur d'Ontario Canada qui a publié des résultats sur une étude face à l'attitude des gens là, qui ont un égard aussi versus les véhicules bruyants. Ils ont demandé à des étudiants en commerce de premier cycle s'ils pensaient que ces véhicules étaient cool. Puis le résultat était sans surprise, ça a été ce que beaucoup d'eux pensaient. Et on disait que c'était même relié à la psychopathie et au sadisme. Mais bon.
Quoi? La psychopathie, quoi?
Oui, écoute, quand j'ai lu ça, il y a des fois des articles que je préfère pas parler dans le monde journalistique, mais je me suis dit que celle-là viendrait nous chercher un peu.
Non, mais si ça a été étudié, ça qui me fascine, on n'a pas une contre-étude là, en ce moment. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit « bon, je vais prendre cette étude-là, puis je vais en faire une de mon côté, voir s'il y a peut-être quelque chose de négligé. » Mais c'est un peu hilarant, puis imagine, c'est vrai, en partie, ça veut dire qu'ils ont des données pour ça, que ces gens-là ont un certain...
L'université en Ontario là, qui a fait ça. C'est sûr que de mettre une ligne d'échappement sur un véhicule pour que ça sonne un petit peu plus fort ou encore un côté sportif, bon, c'est pas nécessairement... ça veut pas dire que tu es un psychopathe au niveau de Ted Bundy, mais ce qu'on dit dans l'étude, c'est que ça l'indique que tu as une personnalité qui aime infliger des désagréments aux autres.
Mathieu, je voulais faire ça sur mon scooter dans le temps, puis mon père m'en avait empêché parce que je cherchais à peut-être... Ouais. Je l'ai percé, là, mon silencieux.
Ça me surprend pas de toi.
Non, mais c'est parce que tout le monde faisait ça, que là, je me trouvais hot, mais c'était des gens qui avaient des beaux scooters. Là. Moi, j'avais un scooter qui ressemblait à un vélo électrique. Là.
Ouais.
Ça n'avait pas rapport. Puis ça avait juste brisé mon scooter.
Parce que pour le pot d'échappement qui est bruyant quand tu es en moto, c'est rassurant parce que les gens t'entendent arriver. Donc, si tu es sur l'autoroute, puis la personne est sur la voie du centre, puis là, regarde un peu à gauche, là, elle a conduit au son, regarde un peu à gauche, elle n'a pas l'air d'avoir grand monde dans son rétroviseur.
Elle fait pas son angle mort.
Mais ça, t'entends arriver de loin, tu te sens un peu plus en sécurité. Oui. Mais quand t'arrives dans ton quartier, c'est épouvantable.
C'est dérangeant le matin quand en plus tu travailles tôt.
Ouais. Ben, j'avais mon premier Harley, je l'ai acheté en 2008, moi, puis je restais au centre-ville de Québec. Puis quand j'arrivais chez nous, j'étais sur Charest, là, je roulais peut-être à 60, 70 sur Charest. Puis après ça, je me mettais sur le neutre, puis même j'éteignais ma moto, puis je rentrais chez nous avec pas de pouvoir sur la moto. Fait que les gens ne m'entendaient pas arriver. J'arrivais à 3 h du matin. Tu ne réveilles pas tout le monde à tous les 8.
Mais tu étais conscient.
Tes pneus vont se faire percer.
Tu as beaucoup de gens conscients comme ça, je ne sais pas. La question se pose. Mais clairement, dans l'étude de Mathieu, il y en a qui ne sont pas conscients et qui, au contraire, sont psychopathes.
Ouais. Mais là, en même temps, je vous le dis tout de suite, la perception aussi des véhicules a changé au travers le temps. C'est une étude qui était composée d'un groupe de 529 étudiants en commerce, bon, à qui on a demandé ça. Bon, c'était cool, tout ça. Bon, s'ils considéraient aussi la voiture comme une extension d'eux-mêmes, s'ils modifieraient aussi leur propre voiture pour rendre les gaz d'échappement plus bruyants. Mais tu sais, pour faire le parallèle un peu tantôt avec Tesla, c'est beaucoup plus, glorifié présentement dans les universités d'avoir un véhicule électrique que d'avoir un véhicule bruyant. Mmh. Bon, fait qu'est-ce que c'est un changement de culture? Je le sais pas. Mais tu sais, entre vous puis moi, il y aurait d'autres études aussi qu'on pourrait faire. Tu sais, les gars qui roulent en camion, qui ont environ un pied de pneu qui sort du camion. Là,
ah aussi, oui! Là. Ouais, c'est quoi ça?
Ça, je vais être franc avec vous autres, il y a un pattern. Il y a un pattern.
T'es dans le jugement, moi je trouve que c'est esthétique.
Attends, t'as basé.
Je peux pas trop embarquer là-dedans.
T'as basé ton commentaire sur des faits observés lors d'une étude Mathieu Thomassin.
Pas parce que je me ramasse avec de la marde dans mon rétroviseur que nécessairement je suis un psychopathe. Là.
Écoutez, moi ce que je vous invite à faire, c'est de jeter un coup d'œil, OK, puis de bâtir vos propres jeux de données. Ouais. À date, mon jeu de données est fort en tabarouette. Pis... Surtout quand je les vois qu'ils sont pas capables de se stationner comme il faut dans certains stationnements. Bon, okay. Je vois avec un peu de jugement, je suis d'accord.
Puis ceux qui rentrent sur l'autoroute à 20 km/h, y a-t-il un pattern?
Comme une auto, Prius, Toyota, beige, collant CA, Fedora. Qu'est-ce que tu veux de plus?
Un jour, on fera une chronique, là, on s'en va dans le plus léger, l'été s'en vient, là, mais un jour, Matt, on fera une chronique sur les choses que les gens font sur la route sans s'en rendre compte à quel point ça peut être néfaste.
Oui.
Tu sais, les gens qui pensent qu'un céder le passage, c'est un stop sur l'autoroute, là, quand tu entres, là.
Ouais. Les autres, si tu veux me faire flipper et que je devienne comme un macaque primate, là, fais exactement ça.
Bon, on va le faire, cette chronique-là. On va faire cette chronique-là.
Mais tu sais de quoi je parle? Le fameux triangle à l'envers, là, c'est céder le passage. Puis il y a des gens qui arrivent dans l'embranchement, là, sont dans la bretelle. Tu es supposé de faire du, mettons, 10 à 20 km/h.
Tu ralentis.
Monter ça jusqu'à 100, 105, 110 quand tu arrives sur l'autoroute. Bien, rendu au céder le passage, ils freinent.
Ouais, mais mon étude de fait sur ça me dit aussi que la distance entre le conducteur et le volant est très mince sur ce comportement-là.
T'es idiot, Mathieu.
Hey, on s'en reparle. Où est-ce qu'on peut te voir et t'entendre sur les réseaux sociaux si on est intéressé par le merveilleux monde de l'automobile?
Allez directement sur Facebook en passant la page de questions auto. Ça vous offre un monde qui est un peu différent, un peu à mon image, des fois tranchante, humoristique. Pas nécessairement comme d'autres médias. On aime se prendre au sérieux quand on fait des reviews, mais on aime des fois vous faire rire un peu aussi avec le monde automobile. Donc, allez faire un tour. Et sur la page YouTube, donc, de questions auto aussi, c'est l'endroit. On fait différents essais. Le dernier essai qu'on a publié, c'est le Buick Envista Avenir. Et non seulement, on vous met des petites vidéos short aussi qu'on vous montre les différentes nouveautés dans le monde automobile. Alors, voilà.
Merci, Mathieu.
Salut!
Hey, à plus! Bon après-midi! Salut!
L'excellent Mathieu Thomassin, chroniqueur automobile. Pascal, j'ai quelque chose à te dire. Si je te disais, et voilà mon héros, regarde-le partir, et voilà mon héros, il est très ordinaire. Ça te fait penser à quoi?
Absolument rien.
Si je te dis, je salue mon héros, laissant tout derrière lui, vous connaissez mon héros, c'est celui qui est là.
Peux-tu qu'il y ait un indice sonore qui soit parti?
C'est le D-Day, 80 ans du débarquement de Normandie. On vous salue, les amis, ceux qui sont encore là. Un gros merci pour les vétérans, les militaires, les familles des militaires. Vous avez fait un gros sacrifice pour qu'on puisse vivre en toute liberté ici, puis on l'apprécie. Donc, on vous dédie cette chanson-là, les Foo Fighters, My Hero, sur les ondes de Boulevard.